Bonjour à tous, merci de nous accompagner dans cette présentation d'un projet ou de deux projets même qui nous tiennent beaucoup à cœur. En fait, on va avoir deux présentations sur un même thème, le thème qui est de comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser les insectes pour résoudre des problèmes qui sont au cœur de notre survie, on va dire. Donc il va y avoir deux... On est quand même dans la science-fiction, il faut un peu de volume. Donc on va avoir deux présentations. La première présentation va travailler plutôt sur l'axe de comment est-ce qu'on peut utiliser des insectes pour manger nos déchets et produire de nouvelles sources de protéines et pour l'alimentation animale. Et la deuxième va être plutôt sur une approche humanitaire et entomophagie humaine et comment est-ce que l'insecte peut apporter des solutions dans le tiers-monde. Bien, première approche, l'approche biomasse et valorisation de la biomasse par l'insecte. Donc, ce qu'on veut faire chez Nextalim est de valoriser des déchets organiques, mettre des insectes dessus, et ces insectes constitueront à terme, après avoir été préalablement conditionnés et proprement conditionnés, constitueront une nouvelle source de protéines pour l'alimentation animale. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, déjà ? Alors, on est de plus en plus nombreux, ça vous n'êtes pas sans le savoir. En plus de ça, le niveau de vie augmente dans un certain nombre de pays où la population est assez importante. Et donc, on a une augmentation très considérable de la demande en viande et en protéines au sens large. Alors, on a trouvé des solutions, on augmente les surfaces agricoles, on commence à développer de plus en plus les solutions à base d'oléoprotéagineux, le colza, le soja. Mais ça ne va pas être tout à fait suffisant. En France, par exemple, on importe déjà plus de 80% de notre soja. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes. Et la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation et sur l'agriculture, a lancé un cri d'alerte en disant d'ici 2050, il va falloir qu'on double la production de nourriture. Bon, c'est pas rien. Et il se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va le faire. Et parmi les solutions qu'ils ont évoquées, il y a l'insecte. Alors, il y en a d'autres. On pourrait développer l'aquaculture. Et on voit qu'on a franchi récemment les seuils où on produit plus de poissons d'élevage que de poissons de pêche. Et jusqu'à très récemment, moi j'étais un citoyen qui voulait faire un acte pour la planète, donc j'achetais du poisson d'élevage. Et puis j'ai appris récemment que pour faire un kilo de poisson d'élevage, il faut entre 3 et 5 kilos de poisson sauvage. Ah, donc là, ça pose un problème parce que du coup, il faut bien aller le pêcher quelque part. Et certains pêcheurs... industriels moins scrupuleux que d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des filets, ils raclent le fond des océans, ils ramènent tout ce qui bouge, de toute façon on s'en fout, on ne va pas le présenter sur un étalage, et puis du coup, après ça, on fait des farines. Donc c'est super, on va en avoir de quoi nourrir nos poissons d'élevage. Mais à côté de ça, on a des côtes qui sont totalement désertifiées. Donc ça, c'est un vrai problème, et donc la voie aquaculture en tant que telle ne va pas être la seule solution potentielle, possible. En même temps que ça, plus on est nombreux, plus on produit de déchets. Alors, je ne vais pas travailler sur la partie déchets plastiques et autres déchets non recyclables, mais juste sur la partie déchets organiques. On produit, par exemple, dans chaque département breton, plus de 400 000 tonnes de déchets par an. Et avec des déchets qui sont produits à la fois sur la partie agricole, des fumiers, des lisiers, et à la fois sur la partie alimentaire, avec des déchets qui peuvent être soit bruts, directement sortis des usines ou de la production et donc qui n'ont pas de plastique autour, mais aussi une bonne partie des déchets qui sont difficilement utilisables tels quels puisqu'il y a du plastique, il faut les trier et quand on les trie, parfois on les trie plus ou moins bien et des fois on fait du compost avec ça. Et moi j'ai des anecdotes d'agriculteurs qui ont mis du compost issu de TMB dans leur champ et ça allait très bien au début, puis les premières pluies sont passées et ils se sont retrouvés avec plein de petits bouts de plastique qui flottaient à la surface du champ. C'était joli mais pas très agréable. Donc on a des solutions pour se débarrasser de ces montagnes de déchets. Pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que c'est 270 millions de tonnes par an en France pour tout ce qui est les déchets de l'agriculture, donc les lisiers et les fumiers. Il doit y avoir 35 millions de tonnes de déchets de grande surface. Donc on sait quoi en faire, on les épand ou on les méthanise. Mais quand on va les épandre, on a un certain nombre de problèmes, puisque en fait l'azote qui était... Dans tous ces déchets, il va se retrouver tel quel dans les champs, et on a vu ce que ça donnait avec les algues vertes. Là, vous avez la carte de toutes les régions de France qui sont en zone d'excédent structurel, et si on regarde la carte européenne, ça ferait un gros tas bleu par ici. En fait, on est en excédent structurel très important. C'est un peu normal, on apporte plein de nourriture, et du coup, après, on ne sait pas quoi faire de ce qui reste, donc on le met dans les champs, et donc il y en a trop. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour avoir plus de protéines, et pour gérer nos déchets, et c'est pour ça que nous, on a pensé à l'insecte, parce qu'on voudrait bien éviter des chimères. On a vu ce que ça donnait quand on a commencé à donner des aliments carnés aux vaches, hein. On s'est retrouvé avec des vaches folles. On voudrait éviter les poissons ou les lapins coqs, voire les poules carnivores et les poules moutes. Donc déjà, un petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié. L'insecte, c'est naturel et c'est bon. Si vous vous rappelez les fondamentaux, hein, Martine à la ferme, quand on était petit, Martine à la ferme, la poule, elle est sur le tas de fumier, elle tire le ver et elle le déguste avec délectation. Si vous voulez aller voir sur Internet, il y a des vidéos assez marrantes où on voit des insectes donnés aux poules et vraiment, elles ont très envie de les manger. On a de la même manière sur les poissons. Rappelez-vous aussi, quand vous allez à la pêche, vous ne mettez pas une vache sur l'hameçon, hein, mais on met bien des petits vers et ça marche très bien. Donc avant de trouver sur nos étalages des insectes bien conditionnés, on va proposer de les intégrer dans la nourriture pour le bétail. Et pourquoi est-ce qu'on propose ça? C'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'apport de protéines, les trois insectes qui sont les lignes d'en dessus, là, ont un contenu en protéines qui est tout à fait comparable avec ce qu'on utilise actuellement, qui est le soja. Lequel soja étant dégraissé, si jamais on dégraissait en plus ces insectes-là, on aurait des choses qui seraient bien meilleure qualité que le soja et qui en plus se rapprocheraient beaucoup plus de la farine de poisson dont on a parlé tout à l'heure et dont on va manquer cruellement. Pour vous donner un ordre de grandeur, la farine de poisson dans les 10 derniers ans, des années, elle est passée de 200 euros la tonne à 1800. Donc il y en a de moins en moins. Et c'est pareil pour toutes les autres protéines. Et le soja, lui aussi, il a fait un bond entre 150, je crois, et 500 euros la tonne. Donc on a des taux de protéines qui sont tout à fait intéressants et qui en plus vont apporter des solutions parce qu'il y a beaucoup d'élevages de volailles aujourd'hui, l'ANSES l'a remarqué, où le fait d'avoir supprimé toute alimentation carnée en termes de protéines, tout apport de protéines animales, fait que les volailles sont un petit peu moins résistantes que ce qu'elles étaient quand elles ont consommé. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que le fait de rapporter des protéines naturelles dans l'alimentation des poules et des poissons va apporter non seulement une solution, parce que ça fournit une nouvelle source de protéines, mais qu'en plus, le profil de protéines dont on parle là est suffisamment de bonne qualité pour que ça, en plus, ça amène des volailles de meilleure qualité. Donc l'insecte, c'est bon, c'est naturel. Puis l'insecte, c'est super efficace. Un insecte, alors vous pourrez trouver aussi sur Internet, par exemple sur le vol de l'insecte, il y a des articles dithyrambiques qui expliquent qu'ils arrivent à voler avec une économie d'énergie phénoménale. Mais en termes d'alimentation, si vous prenez 10 kilos de nourriture, avec ces 10 kilos, vous pouvez faire 1 kilo de bœuf. Si vous le donnez à vos cochons, vous allez en obtenir 3 kilos. Si vous le donnez à vos poules, vous en avez 5 kilos. Alors que si vous prenez les sauterelles ou les grillons, vous risquez d'en avoir 9 kilos. Donc il y a quand même une économie de moyens à avoir en utilisant de l'insecte qui est assez importante. En plus de ça, ça pollue beaucoup moins derrière, puisqu'en fait, alors, en termes d'espace, on aurait les mêmes cours, mais en termes de pollution, on voit que la pollution de type effet de serre avec les vers de farine, par exemple, est nettement inférieure à ce qu'on va voir, et c'est nettement inférieure avec le bœuf. Alors comme c'est super efficace, on peut lui donner autre chose à manger. C'est-à-dire qu'on peut lui donner des aliments qui sont pour nous des déchets et où eux vont être capables d'extraire les protéines, les nutriments et de les métaboliser. Et c'est d'autant plus efficace, ça traite à la fois, ça transforme les aliments, les déchets en protéines, mais en plus de ça, ça les réduit en volume. Donc c'est une solution qui permet de prendre des déchets organiques, une tonne de déchets organiques, derrière on retrouve 500 kilos d'un truc qui ressemble à un compost. En plus de ça, de ce compost, on aura extrait à peu près la moitié des nutriments en azote, donc on aura un compost qui sera moins polluant, ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur un méthaniseur. Un méthaniseur, ça prend des déchets, ça brûle tout ce que ça peut avec le carbone, etc. Et derrière, vous avez la même quantité d'azote que vous aviez au départ. Donc ça veut dire que le problème d'épandage que vous avez après, sur des digestats de méthaniseur, il est strictement identique à ce que vous aviez comme tas de déchets au départage. Alors que là, avec les insectes, on a une solution dans laquelle on aura réduit l'impact environnemental en fixant cet azote et en le fixant d'une manière intéressante, puisqu'il va pouvoir retourner directement dans l'alimentation des bêtes qui, eux-mêmes, vont produire un nouvel azote qui va reproduire de nouveaux insectes, etc. Donc on s'approche, avec des technologies à base d'insectes, on va s'approcher d'une économie circulaire où on aura moins besoin d'intrants pour nourrir nos bestiaux. Et nous-mêmes. Alors, le nouvel ami de l'homme, c'est celui que nous, on va pratiquer. Rémi parlera d'une autre espèce tout à l'heure. Donc c'est Hermesia illucens, qu'on appelle la Black Soldier Fly. Et Black Soldier Fly, en fait, ça a toutes les caractéristiques d'un nouvel animal d'élevage. Donc c'est déjà, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Hein, c'est l'objet de beaucoup de recherches sur la manière de les élever, sur le contenu en protéines, sur quel est l'impact si jamais je leur donne à manger ceci, est-ce que je le retrouve derrière. Par exemple, il y a des gens qui font des études où ils mettent des parures de poisson dans la nourriture des vers pour regarder si derrière ça fait des oméga 3. En l'occurrence, ça le fait. Donc c'est vachement bien. Ça permet d'apporter facilement certains types de nutriments aux animaux qu'on va nourrir avec. Il y en a en France à l'état naturel, il y en a une sorte de U, si on dit, vers le sud de la France. Et comme c'est des animaux qui n'aiment pas tellement les températures fraîches, ils n'ont pas tendance à monter. Donc il y a un front qui se déplace plus ou moins en fonction des années, mais on en trouve naturellement en France. Donc ce n'est pas la coccinelle chinoise qu'on va retrouver ensuite après partout de manière invasive. Et alors justement, c'est une exploitation efficace. Alors déjà, ça se mange, c'est bien digestible par les bêtes avec lesquelles on va les faire manger. Ça croît très rapidement, c'est-à-dire qu'en 15 jours, dans les bonnes conditions, on peut avoir un bestiau qui fait 2 cm, voire plus, et qui est presque prêt à être consommé. Et ça, sur n'importe quel type de biomasse. C'est prolifique, la femelle va faire 800 œufs, donc on peut les élever très facilement. C'est robuste, c'est-à-dire que si tout d'un coup, il y a une panne de température, on ne va pas tout perdre. Et puis, il y a un avantage énorme, c'est que c'est très facile à récolter. C'est-à-dire que ça se sépare tout seul de son milieu. Quand ça a plus faim, parce qu'en fait, au départ, on part avec une mouche. La mouche, elle va s'accoupler. Ça va faire des œufs. Ces œufs donnent des larves qui mangent de plus en plus la biomasse. Et puis, à la fin, ça, on en a des concentrations assez importantes. Et puis, à un moment, la larve, elle décide qu'elle a assez mangé pour toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort du milieu, elle migre, et elle va se trouver un coin au sec. Et dans ce coin au sec, elle va s'en puper, c'est-à-dire qu'elle va s'en faire comme un cocon, elle va devenir rigide, et à l'intérieur de ce petit cocon, il y a une mouche qui va se développer pour repartir dans un nouveau cycle. Donc ce que nous, on propose de manger, c'est de faire manger aux animaux, pardon, c'est ça, c'est les larves, et en fait, on va juste attendre qu'elles aient plus faim, ou qu'elles aient plus d'espace, ou on va se débrouiller pour qu'elles sortent du milieu, et une fois qu'elles sortent du milieu, elles sont quasiment propres, il n'y a plus qu'à les affamer un peu pour vider les intestins, et puis on peut les réduire en farine. Donc récolte très facile, ce qui est un avantage intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans les effluents ou dans les déchets. C'est inoffensif, parce que comme l'animal ne mange pas, l'adulte ne mange pas, la seule chose qui l'intéresse dans la vie, c'est de trouver un partenaire. Donc il va rester là où il y a des copains et des copines, et il ne va pas aller explorer, il ne va pas aller chercher de la bouffe sur un truc en putréfaction pour aller se poser ensuite ailleurs, amener les microbes qu'il y avait avec, etc. Il n'a pas de mandibule, donc il ne pique pas. Donc il ne fait que boire d'une fois de temps en temps. Et donc il n'y a pas de risque de dissémination. Même si jamais l'élevage s'ouvre, on ne va pas retrouver toutes les mouches dehors. Il y en a quelques-unes qui sont curieuses, mais a priori, ils ne vont pas toutes sortir. Pas la même chose, par exemple, il y a les Sud-Africains qui font ça avec de la mouche domestique. La mouche domestique, vous imaginez bien que si jamais vous ouvrez la fenêtre, il y a un nuage qui sort et les voisins, vous les avez sur le dos très rapidement. C'est assez intéressant parce que aussi, ça assainit son milieu. La manière dont ça mange, ces insectes-là, c'est que ça crache sur sa nourriture pour la dissoudre et du coup, ça la casse en composants élémentaires. Et ces composants élémentaires, même les bactéries comme Escherichia coli ou Salmonelle, sont aussi cassées. Et donc après, une fois que ça a craché ça, ça devient liquide et ça n'a plus qu'à réaspirer les nutriments pour les métaboliser. Donc c'est un effet d'assainissement du milieu dans lequel c'est. Et en plus de ça, donc ça va être un compétiteur assez féroce d'autres types d'insectes qui sont des nuisibles, et notamment les mouches classiques. Il y a des expériences aux États-Unis où les gens mettent des Black Soldier Fly dans leur porcherie pour justement se débarrasser des nuisances représentées par les autres mouches ou par les odeurs. Alors on n'est pas les seuls à penser à ça, hein, et c'est comme toute recherche scientifique, c'est quelque chose qui découle de beaucoup de travaux. Donc, si on résume, dans les années 70, il y avait les pionniers qui ont commencé à imaginer que l'insecte pouvait être la solution pour résoudre les problèmes de nourriture de demain. Ils ont fini par convaincre de plus en plus de chercheurs, et on a vu à partir de 2000-2005 de plus en plus de labos commencer à se monter pour faire de la recherche autour des black soldier fly ou d'autres insectes. Jusqu'au point où, vers 2010, la FAO a commencé à considérer que c'était suffisamment mûr et que les insectes représentaient une vraie solution pour résoudre les problématiques de nourriture de la planète. Et notamment, en Europe, ça a été relayé par les Pays-Bas et par la Grande-Bretagne. Il y a une grande université agricole aux Pays-Bas qui s'appelle Wageningen, qui a fait un rapport de faisabilité où ils étudient, justement, pour nos gouvernements, quelle est la faisabilité d'utiliser de l'insecte pour la nourriture animale. Alors, ils disent, en gros, techniquement, ça va le faire. Techniquement, ça va le faire. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros producteur au monde, c'est le Sud-Africain Agri-Protein, il fait une tonne par jour. Une tonne par jour, 360 tonnes par an. Quand on sait qu'aujourd'hui, les oléoprotagineux en France, c'est 5 millions de tonnes, avant de représenter une part significative qui va réellement baisser l'impact du soja, on a encore beaucoup de marge. Donc il y a un vrai enjeu qui consiste à industrialiser le processus de traitement de déchets et d'élevage d'insectes pour arriver à produire des volumes qui soient significatifs pour les marchés qu'on vise, à savoir la nourriture animale en l'occurrence. Donc on voit que dans le monde, il y a tout un ensemble de sociétés qui se sont mis en place. En France, à ma connaissance, on est 5. Avec des approches assez différentes les uns des autres, hein, on pourra en parler. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Des élevages industriels d'insectes, il y en a déjà eu plusieurs thèmes. Par exemple, tout ce qui est la lutte contre des nuisibles comme la Lucille Boucher. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet insecte qui se met dans les plaies des hommes ou des animaux, qui pond là-dedans, et puis après, les animaux se font dévorer tout cru. C'est assez crade. Et puis il y a la mouche tsetse aussi, alors là vous connaissez tous, hein, Dr. Livingstone. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté les premières usines industrielles d'élevage d'insectes, ont été montées à cette occasion-là, pour produire des insectes en masse qui ont été stérilisés puis relâchés dans les populations sauvages, de manière à ce qu'ils copulent avec des insectes en bonne santé, mais qu'ils ne se reproduisent pas. Et donc du coup ça faisait tomber les taux de renouvellement les taux de reproduction en dessous des taux de renouvellement. Donc ça a été des luttes très efficaces. On a parlé de la coccinelle chinoise, la coccinelle asiatique, elle a été introduite pour lutter contre d'autres prédateurs. Il y a d'autres exemples d'insectes qui sont élevés pour aller lutter contre, par exemple, des parasites du chou ou des choses comme ça. Donc on pense qu'il y a un marché conséquent, on voit qu'il y a un certain nombre de sociétés qui sont en train de développer leur procédé de production, et on est tous en train de chercher à savoir comment on va, de manière efficace, produire les quantités dont on a besoin, donc avec des enjeux sur la maîtrise technologique et les capacités de production. En termes de marché, moi je parle aujourd'hui de traitement des déchets et d'alimentation animale. Rémi parlera dans un instant de chimie et d'alimentation humaine, parce qu'il y a d'autres usages de l'insecte, notamment dans le domaine chimique, qui sont très intéressants. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais vous en avez déjà tous mangé. Tous ceux qui ont mangé des petits nounours rouges, là. Les petits nounours rouges, et ben, le rouge, c'est un colorant qui est fait à partir d'une cochenille. Alors comment on fait pour élever des insectes, hein, schématiquement, la prétention de vous montrer l'usine, là, pour l'instant. En gros, on va avoir une colonie. Dans la colonie, on va avoir ponctionné suffisamment d'insectes pour qu'ils puissent se reproduire. Ces insectes vont se reproduire, ils vont faire des œufs. Et puis, on va avoir à l'autre bout de la chaîne, on va aller avoir les camions qui vont venir arriver avec les déchets. On va mélanger tout ça, donc on va ensemencer les œufs. Et puis, on va les mettre dans ce qu'on appelle le bioréacteur, c'est-à-dire un endroit où les conditions sont suffisamment favorables pour que nos insectes mangent les déchets qu'on leur a donné à manger. À la fin, ils se collectent automatiquement. Ils vont dans un outil qui va les conditionner. Donc là, par exemple, on va presser pour... D'abord, on va les tuer. Ensuite, on va presser pour avoir d'un côté l'huile d'insecte et de l'autre côté la protéine d'insecte. Et ça va être conditionné pour aller être intégré dans l'aliment pour le bétail. En même temps que ça, on va récupérer du compost et puis d'autres effluents qu'on va traiter comme des déchets ou comme des amendements organiques. Alors, pour l'instant, il reste encore quelques... ouais, c'est ça. Il reste encore quelques écueils avant de pouvoir faire tout ça. C'est que là, j'ai parlé du fait qu'on allait tuer nos insectes ici. On allait les, pour pouvoir les conditionner. En fait, si on parlait tout à l'heure de la loi et des lois physiques, si on suivait la loi, on devrait les amener à l'abattoir. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'abattoirs qui sont capables de traiter les insectes. On imagine les petites files de larves qui se présentent. On ne sait pas s'il faut les étourdir avant ou pas, mais bon, bref. Donc aujourd'hui, il y a ça comme obstacle, mais il y en a d'autres. Par exemple, toute la loi a été faite pour des animaux comme les vaches, les poules, les cochons, donc des vertébrés. Et à la suite de la vache folle, elle a été écrite et durcie de manière à ce qu'on ne puisse pas donner n'importe quoi à manger à ces animaux. Et donc du coup, aujourd'hui, les insectes sont considérés aussi comme des animaux d'élevage. Et il n'y a pas de cas particulier dans la loi qui fait qu'on puisse reconnaître le fait que l'insecte, en tant que saprophage, donc qui mange des déchets, il est naturel de lui donner des déchets de table et de cuisine. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas le droit, par exemple, d'alimenter mes insectes avec des fumiers. Parce que il n'est pas prévu de pouvoir donner du fumier à des poules, donc il n'est pas prévu de donner du fumier à des insectes. Donc il y a aujourd'hui pas mal de gens qui travaillent en lobbying auprès de Bruxelles pour essayer de faire changer ces lois, et donc c'est en cours de mise en place. Bon, en résumé, les insectes élevés sur la biomasse, nous on pense que c'est une arme de valorisation massive. On va pouvoir faire avec ça de l'alimentation animale sans faire des chimères. On va pouvoir faire de la gestion des biodéchets et avoir moins de polluants dans nos sols. Et puis on va avoir tout un ensemble de coproduits valorisables dont Rémi parlera tout à l'heure. Je te passe la parole.
Parfait. Donc bonjour tout le monde, on va changer de thème un petit peu, on va rester sur les insectes, on va changer d'espèce, on va passer sur les grillons, une espèce un peu plus sympa parce qu'elle chante, qu'elle a des connotations un peu moins négatives que la mouche, et c'est vrai que c'est un insecte qui est un peu plus dur à faire passer auprès du public en général. Donc nous, on est une société qui a été créée en 2012, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, sur un projet qui a un peu plus de 2 ans. Donc qui ici a déjà mangé des insectes? Ça fait déjà pas mal de monde. Donc qui a acheté ces insectes en France, etc., etc. Ah, il y a un coupable. Deux. Alors, en général, en France, ce qu'on achète, donc c'est souvent du grillon, hein, il faut le dire, parce que c'est un insecte qui est très élevé en Asie, qui est facile à élever. C'est aussi vendu très, 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 très cher par rapport au coût de revient réel. Parce que ici, le leader sur le marché, on va dire, en tout cas celui dont on entend le plus parler, à savoir Micronutris, il élève des grillons qui revend à 1 250 € le kilo. Donc ça fait un peu cher hein, pour du caviar, mais derrière, c'est aussi parce qu'en France, il y a très peu de ventes faites, parce que c'est un marché de niche. Nous, à Képri, on vise un marché qui est complètement différent, à savoir les populations qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les pays qui ont déjà une culture entomophage, en fait. Alors, y en a beaucoup. Hein. En général, c'est les pays du Sud, ce qui est normal, puisque l'insecte, c'est un animal à sang froid. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est assez efficace dans son alimentation. Hein. S'il avait besoin de chauffer son corps comme nous, on le fait, il mangerait plus. Il n'a pas besoin. C'est pour ça qu'il arrive à faire du 1,2 ou 1 pour 1 en termes de transformation. Donc, c'est pour ça aussi que dans les pays du Sud, il est plus facile d'élever des insectes, alors qu'en France... Alors, les mouches sont encore un cas à part parce que la méthanisation va permettre de chauffer assez facilement des enclos d'élevage, mais sur du grillon, il faudrait chauffer artificiellement, ce qui ferait perdre beaucoup d'avantages à l'élevage d'insectes en France. Donc, sur ce marché atypique, on espère conquérir des parts de marché substantielles avec un business model qui sera facile à répliquer. Pour nous, pour aller essaimer dans plusieurs pays. Alors, notre premier pays d'implantation ciblé, c'est le Laos. On est actuellement en train de travailler avec Handicap International sur place pour monter un élevage. Donc, ça serait en fait un projet pilote avec 200 familles différentes qui produiraient des insectes pour nous. Donc, on leur fournirait tout le matériel. Donc là, vous voyez, c'est la partie, voilà, entomoculteurs. On leur fournit les cages, parce que les cages, en fait, n'existent pas trop sur le marché. En général, ils utilisent des silos en béton pour l'élevage, ce qui n'est pas vraiment adapté. On leur fournit la formation, et le suivi, et la nourriture. Et en échange, ils nous reversent une partie de leur production qu'on va pouvoir utiliser, donc alors, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire humaine ou animale, puisque les protéines d'insectes peuvent être consommées dans les deux cas. L'industrie cosmétique et pharmaceutique, là, on n'est pas sur la protéine, mais plutôt sur tout ce qui va être extrait des carapaces, à savoir le chitosan. Donc, comme je disais, il y a actuellement pas de cage dédiée à l'élevage d'insectes, en tout cas de masse. Il y a quelques petits modèles qui existent pour garder des insectes pour ceux qui élèvent des reptiles chez eux, mais c'est à peu près tout. Même les gros acteurs du secteur dans tout ce qui est donc alimentation pour reptiles n'ont pas spécialement de matériel adapté, designé pour. Ils utilisent des grosses cuves en plastique. Donc là, c'est toute la partie sur les cages. Je ne vais pas vous en parler beaucoup. S'il y a des gens qui veulent en parler après, je vais éviter de vous ennuyer hein, parce que ça reste assez technique. Il faudrait qu'on passe à d'autres choses. Donc l'objectif, voilà, c'est de permettre à des individus vivants avec peu de moyens d'accéder à un statut de micro-entrepreneur dans des pays où l'agriculture n'est pas forcément très développée. On est très très loin de l'agriculture au niveau français, par exemple. Donc l'objectif, c'est d'optimiser le rendement des cages, de décentraliser la production pour limiter les risques, puisque il ne faut pas oublier un truc, c'est que les insectes se reproduisent très vite, mais c'est aussi parce qu'ils meurent très vite. Quand il y a une épidémie, actuellement, il y a deux virus qui ont été répertoriés principalement chez les grillons, donc le densovirus et un autre qui est un virus paralysant, c'est des colonies entières qui disparaissent. Donc s'il n'y a pas d'éloignement géographique, les grillons peuvent complètement disparaître d'une petite zone, ce qui ferait que les fermiers avec lesquels on travaillerait se retrouveraient dans des situations assez difficiles si en plus on ne pouvait pas leur refournir un capital pour repartir derrière. On a des coûts de production qui sont assez faibles, puisque justement nos coûts de production, c'est les cages et la nourriture pour insectes. Alors là, c'est encore un chantier énorme, hein, parce que la nourriture pour insectes, ça n'existe pas, à de quelques rares exceptions, c'est-à-dire les nourritures artificielles pour vers à soie. C'est les deux, en gros, vers à soie et abeilles, c'est les deux insectes qu'on connaît tous, parce que c'est les deux insectes qui ont été domestiqués, et entre-temps, on n'a pas pris le temps d'en domestiquer d'autres. Même les espèces de papillons qui font, par exemple, de la soie sauvage, donc qui sont des saturnidés de la même famille que les vers à soie, n'ont pas été domestiqués et ont par contre été introduits en France quand il y a eu des maladies du vers à soie au 19e siècle. Alors, la protéine de demain, donc, on vous en a déjà parlé, Jean-François vous en a déjà parlé sur la première partie. La protéine d'insectes, c'est une protéine comme une autre. Donc nous, notre objectif, c'est d'utiliser cette protéine non pas comme telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous vendre des insectes entiers. Ça, on considère que c'est quelque chose qui est déjà fait, mais qui est, sur lequel le marché n'est pas forcément très porteur, surtout dans les pays non en voie de développement. Alors qu'avec une extraction de protéines, on pourrait obtenir des produits transformés qui seraient très intéressants, par exemple un knacki à base de grillons. Voilà. Et là, d'un seul coup, vous n'aurez pas la forme. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on vous sert rarement une vache entière. C'est pas pour rien. Alors là, vous avez un petit tableau qui vous résume les avantages donc, du grillon par rapport au bœuf. Alors, on remarque que c'est moins calorique, que c'est quand même moins protéique. Hein. Il ne faut pas se leurrer, ça l'est. Par contre, on remarque aussi, voilà, toujours... Le faible besoin en nourriture et le très très faible besoin en eau, puisque si vous leur donnez de la nourriture humide, toute leur eau, ils vont la trouver directement dans leur nourriture. Et après, même si vous ne le faites pas, il y a besoin de très très peu, hein, c'est moins d'un litre pour un kilo sur une génération, donc c'est vraiment très très faible. Et le taux de reproduction, alors on l'a mis 100 pour 1. C'est parce qu'on est très conservateur. En fait, on part du principe que sur les 1200 œufs qu'une femelle pond, il y en aura quand même pas tant que ça qui arriveront à terme, ce qui est normal puisque le grillon a tendance à être cannibalistique. Ils sont un peu territoriaux et s'ils ont un manque de protéines, ils ne vont pas hésiter à aller manger les voisins. Alors, on remarque un gros avantage aussi, c'est que ça permet de lutter contre les carences en calcium dans certains pays. Là, vous avez un tableau qui vous résume en comparant avec les apports journaliers. C'est plus que raisonnable hein, pour 100 grammes. Ça veut dire que si vous faites un repas à base de grillons, derrière vous mangez des fruits et des légumes, et 200 grammes de grillons, des fruits et des légumes, et ça vous fera vos apports journaliers recommandés. Alors là, on va parler un petit peu de tout ce qui est donc biomatériaux issus de la carapace. Donc c'est là qu'il se passe les choses les plus intéressantes. La protéine, c'est la base, c'est sur de l'alimentaire, et même si ça peut changer complètement le marché, nous, ce qu'on veut voir, c'est ce qui est faisable d'autres. Alors, la carapace de grillon, donc, elle est composée majoritairement de chitine, comme la crevette ou comme les plumes de calmar. La chitine et le chitosan sont déjà extraites donc, de ces deux dernières sources, puisque c'est des sources qui sont faciles à trouver. Hein. Les élevages de crevettes en Asie du Sud-Est, par exemple, produisent des tonnes et des tonnes de carapace. L'objectif, c'est d'arriver à produire un biomatériau qui pourrait avoir de nouvelles propriétés, même comparé au chitosan déjà existant, parce que en fait, cette chitine, elle a un avantage, c'est qu'elle n'est pas composée de minéraux comme celle des crevettes, qui sont beaucoup plus solides. Donc, ce qui fait qu'il y aurait besoin d'une phase de moins dans les procédés d'extraction. Une phase de moins, ça veut dire moins d'agression sur la molécule finale qu'on veut obtenir, et donc potentiellement, vu que l'agencement ne sera pas le même, des capacités qui seraient complètement différentes. Alors je ne sais pas si on vous l'a amené, non, mais quelque chose qui peut être... je vais vous faire vite fait un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec de la chitine et du chitosan. On peut à peu près tout faire, du bioplastique aux produits de traitement des eaux usées, y compris radioactives. Il y a aussi des travaux de pointe qui sont faits sur des peintures à base de chitosan qui auraient la capacité de se réparer toute seule au moins une fois lorsqu'elle serait exposée à la lumière du soleil. Donc, ce qui est quand même très intéressant, puisque si votre voiture se fait rayer mais que finalement ça n'a aucun impact, parce que vous n'avez pas besoin de repasser un coup de peinture dessus à chaque fois, ce serait quand même plutôt sympa. Alors c'est aussi beaucoup vendu en Asie, la chitine absolument pas purifiée. En tant que produit amincissant, toutes les études qui ont été faites disent que ça ne marche pas, donc n'en achetez pas. Voilà. Alors là, donc, rappel de quelques définitions. Donc, entomophagie, consommer des insectes, ça a toujours été fait. Hein. On a retrouvé des traces d'entomophagie dans les textes pré-bibliques. Puisque à l'époque, les ermites en mangeaient en fait dans le désert. C'est pour ça qu'il y a trois espèces d'insectes qui sont considérées comme cachères. C'est parce que c'était les seuls qui étaient consommés par des ermites à l'époque. Ça a disparu au fur et à mesure, y compris dans les pays entomophages. Par exemple, en Thaïlande, si vous allez à Bangkok, la plupart des habitants ne mangent pas d'insectes. En réalité, les stands que vous voyez d'insectes quand vous allez à Bangkok, c'est les prostituées du Nord-Est qui ont ramené leurs habitudes alimentaires dans Bangkok. Et donc, c'est une coutume qui n'est pas forcément bien vue, même dans des pays où il y a une tendance entomophage. En Europe, ça a rarement été très pratiqué, même si on a quelques textes, entre autres médicaux, à l'époque grecque, qui conseillaient de mélanger du cafard avec du vinaigre pour traiter divers problèmes. Alors, ça n'a pas été beaucoup étudié. Il faut faire attention parce que justement, vu que les insectes ont tendance à faire un peu peur, à susciter le dégoût, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir tendance à chercher des solutions de ce côté. Et ça peut être un problème à long terme, justement tout ce problème de perception culturelle. Parce que passer à côté d'un remède qui marcherait parce qu'il serait fait à base de cafards, ça serait quand même dommage. Donc l'entomoculture, c'est un terme qui est relativement nouveau que nous on utilise. Donc ça définit l'élevage d'insectes. En anglais, c'est insect farming qui est beaucoup utilisé, même si entomoculture commence à se populariser petit peu par petit peu. Alors, l'élevage d'insectes, il y a des milliards d'usages. Hein, l'élevage de mouches, l'élevage de grillons, l'élevage de papillons, l'élevage, la sériculture, donc pour la soie, l'apiculture. Dans le futur, peut-être d'autres espèces, hein, par exemple des espèces de buprestes qui sont actuellement considérées comme des invasives du bois, pourraient très bien être utilisées pour retraiter des déchets de bois et en extraire des protéines. L'élevage d'insectes pour lutter contre les invasifs est aussi quelque chose qui pourrait être très intéressant. Par exemple, l'élevage de guêpes qui attaquent donc les larves de buprestes dont je parlais juste avant. Vous avez peut-être déjà vu, c'est des hyménoptères avec des grands dards. En fait, elles arrivent, elles repèrent un insecte, elles le touchent juste entre ses deux plaques, et il est paralysé, et après elles l'emmènent dans un terrier, et leur larve va les consommer plus tard. C'est actuellement étudié justement pour lutter contre des invasifs en Amérique du Nord. Donc l'agriculture sous contrat, c'est à peu près le mode qu'on utilise donc avec Kepri pour produire des insectes. C'est fournir les moyens de production à un fermier, signer un contrat avec lui en lui disant voilà, pendant X années, tu vas travailler pour nous, garder une partie de ta production dont tu feras ce que tu veux, la manger, la revendre. Sachant que le grillon, je vous disais qu'il était très cher en France, il reste cher. En Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qu'un kilo de grillon, c'est minimum 5 euros, là où un kilo de poulet, c'est 2 euros. Parce que c'est un marché où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, Aqueta domestica, le grillon domestique, c'est l'espèce qu'on élève. Alors, il y a d'autres espèces de grillons, par exemple le grillon noir bimaculatus, qui a un chant qui est plus fort, qui est plus large, mais qui a aussi plus mauvais goût. Donc c'est dommage qu'on n'a donc pas retenu, malgré le fait qu'il soit plus facile à élever en général. Les grillons ont l'avantage d'être omnivores. Même s'il leur faut une nourriture à forte tendance protéique, c'est vrai que le fait de pouvoir varier, par exemple, en leur donnant des aliments à base de luzerne, qui est une herbe très protéique, même si elle est beaucoup moins, par exemple, que le soja, hein, Ça permettrait d'avoir une alimentation 100% végétale avec une plante facile à élever qui demande moins d'eau que le soja, parce que le soja est en général utilisé pour tout ce qui demande des protéines. Ça permet aussi éventuellement de traiter les déchets, mais ça, en fait, on va éviter de ne pas le faire pour éviter les risques de transmission de maladies vers l'homme, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des risques, même si les risques de virus sont très faibles. En fait, un virus qui est adapté à un organisme à sang froid va avoir du mal à passer vers un organisme à sang chaud. Les risques de bactéries, par contre, ne sont pas nuls. Pareil, il y a un autre risque. Si vous êtes allergique aux crevettes, ne mangez pas d'insectes, c'est déconseillé. Pour l'instant, les études n'ont pas encore été assez poussées pour montrer à quel point il y avait un seuil de tolérance ou non de l'humain, comme c'est quand même assez proche. Méfiez-vous, il y a quand même des cas qui ont été répertoriés d'allergie aux insectes sur des personnes qui avaient déjà un terrain allergique sur des crustacés. Et donc Hermesia illucens, la mouche noire, la mouche soldat noire, donc là bah, c'était le terrain de chasse de Jean-François. On y a pensé aussi, pour l'instant on n'est pas dessus parce que de toute façon élever plusieurs espèces d'insectes ça demande beaucoup de fonds que pour l'instant on n'a pas, donc on évite de trop se disperser, on se concentre sur une espèce même si on a en effet d'autres espèces en vue, par exemple le ver de farine aussi dont on vous a très peu parlé ici mais qui est une espèce là encore très facile à élever. Voilà, donc là on a fini la partie on parle de nous. Vu qu'on a probablement oublié plein de choses, n'hésitez pas à nous poser des questions, parce que c'est quand même mieux si on peut avoir une session de questions un peu longue. Donc voilà.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression de reporter le problème un peu? Parce que vous avez parlé d'industrie alimentaire au niveau des poules, des vaches, des cochons, des choses qui sont des élevages hors sol, des trucs nourris aux farines animales. Est-ce que finalement, transférer ça sur les insectes, c'est pas déplacer le problème plutôt qu'apporter un véritable, on va dire, une véritable solution au niveau des changements d'habitude qu'on a dans l'alimentation?
Oui, effectivement, c'est sûr que si on devenait tous végétariens, le problème se poserait de manière beaucoup moins acérée. Maintenant, la probabilité de réalisation d'un tel scénario est quand même assez faible. Donc, d'une part, et d'autre part, je pense que l'aspect valorisation des effluents qu'on peut obtenir avec les insectes, hein, que ça soit fait pour faire de la nourriture ou que ça soit fait pour faire du biodiesel, par exemple, est aussi une solution intéressante. Donc, il y a d'un aspect nourriture, oui, on prend acte du fait que les gens ne changeront pas d'habitude, et il y a un aspect retraitement des effluents où là, on apporte quelque chose de significativement différent.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est important à noter, c'est que le changement, ça prend du temps. Faire accepter aux gens que leur steak va leur coûter 100 euros au lieu de 10, ça, déjà, ils ne le voient pas, parce que l'augmentation des prix, y compris dans les matières premières, reste assez lente. Et en fait, d'ailleurs, avec EPRI, on essaye de travailler plutôt justement sur le fait de faire changer les habitudes alimentaires dans les pays où la culture est déjà ancrée, pour qu'en fait ça vienne de la base, plutôt que d'essayer de marteler le changement par le haut, parce qu'on pense que ça marchera juste pas en fait.
D'ailleurs, sur ce dernier point, il y a une alerte qui avait été levée aussi par la FAO pour montrer que les situations sont bien contrastées en fonction des endroits où on est. C'est que du côté des pays traditionnellement entomophages, comme il n'y a pas d'élevage systématique ou important d'insectes, il y a certaines classes de population qui considèrent que c'est un signe de richesse que de manger des insectes, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez onéreux. Et donc, les gens vont plutôt à la chasse aux insectes. Donc, il y a des régions qui sont en train de se dépeupler de leurs insectes sauvages parce que, justement, il y a l'entomophagie qui remonte. Donc la FAO veut aussi développer l'élevage d'insectes là-bas pour ça. Puis alors, il reste maintenant, puisqu'on est quand même dans un festival de science-fiction, il reste quand même d'autres perspectives. Peut-être qu'un jour, on arrivera à synthétiser des trucs qui ressembleront suffisamment à de la nourriture pour qu'on puisse y prendre du plaisir. Moi, je pense qu'on n'y est pas encore quand même.
Vous dites que vous allez donner des déchets aux insectes, mais si les insectes mangent des déchets qu'ensuite les poules vont manger et ensuite on va manger les poules, est-ce qu'au final on ne finit pas par manger des déchets? Du coup, quel genre de déchets vous leur donnez?
Alors déjà, oui, effectivement, c'est une vraie question. La loi, justement, est là pour nous protéger contre les abus qu'on pourrait avoir là-dessus. C'est certain, c'est que par exemple, si on donne des déchets contenant de fortes doses de médicaments, on risque de les retrouver dans les insectes, donc dans les animaux, etc. Donc on pourrait contaminer la chaîne alimentaire menant jusqu'à l'homme si jamais les déchets qu'on utilise en amont ne sont pas propres. Donc il y a beaucoup de précautions à prendre sur la nature de ce qu'on va donner aux insectes. Et aujourd'hui, par exemple, on envisage de travailler sur des déchets d'industrie agroalimentaire qui sont considérés comme de la nourriture qui serait éligible à la nourriture humaine. Donc en tant que tel, il n'y a pas de risque avéré là-dessus. Quand on va commencer à passer sur des déchets qui sont des fumiers, a priori, c'est des choses qu'on met dans les champs, mais qui sont aussi issues d'animaux qui sont eux-mêmes contrôlés. Donc on a un risque qui est la transmission des antibiotiques qu'on aurait pu trouver, qui aurait pu consommer ces animaux dans la nourriture qui va être amenée aux insectes. Et donc on pourrait imaginer que ça puisse passer, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les animaux à qui on les a donnés, on en a déjà mangé, et puis qu'on a déjà mangé ces animaux, donc le risque est quand même moins violent. Et puis, il y a des études aujourd'hui qui essayent d'étudier pour voir si l'insecte n'est pas un concentrateur. Par exemple, comme il va manger beaucoup de matière, il pourrait concentrer dans son métabolisme les métaux lourds. Donc on fait aussi attention à ce genre de choses pour savoir, pour faire des analyses, pour vérifier que nos insectes ne concentreraient pas les métaux lourds. Donc, on ne fera pas n'importe quoi, on va trier les déchets, en tout cas on va trier les sources de déchets de manière à donner des choses qui sont éligibles à l'alimentation d'animaux, maintenant en élargissant la gamme, puisque leur efficacité leur permet de traiter des choses que d'autres animaux ne mangeraient pas.
Alors pour préciser d'ailleurs, il y a quand même un avantage à l'insecte, c'est qu'il supporte mal les pesticides, puisqu'en général ça a été fait pour le tuer en fait. Donc ce qui fait que déjà ça fait une partie des problèmes qui disparaît naturellement, puisque de toute façon on ne peut pas leur donner à manger ça, quoi. pas leur donner à manger une source qui a été teintée par des pesticides. Autre chose, en effet, la concentration des métaux lourds s'est étudiée. Par exemple, le son de riz, donc qui est un déchet classique du riz, a un problème, c'est qu'il contient souvent des doses d'arsenic assez élevées. Et en effet, il est déconseillé d'en donner à manger au grillon, par exemple, puisque justement, sur l'alimentation au Laos, le son de riz, c'était un déchet qui nous venait naturellement à l'esprit, parce que le taux d'arsenic retrouvé après dans les grillons était trop proche des normes, des seuils maximaux autorisés pour qu'on se sente en sécurité avec le produit. Donc on a préféré abandonner l'idée du son de riz comme nourriture, en tout cas dans l'alimentation des insectes.
En termes de sécurité aussi, on peut citer le cas des prions, parce que un des éléments qui fait que les lois actuelles n'autorisent pas, par exemple, d'utiliser les déchets de tablettes de cuisine pour nourrir des animaux, alors que ça a toujours été fait pour nourrir les cochons, on a toujours pris les déchets de restauration pour faire ça, aujourd'hui c'est interdit. Et ça serait interdit de nourrir des insectes aussi avec ça. Donc on essaye de faire évoluer la loi là-dessus. C'est qu'on pense que des prions résiduels qui seraient dans cette alimentation pourraient passer dans le mammifère qu'il aurait, ou dans la volaille qu'il aurait consommée, pour derrière arriver jusqu'à l'homme. Donc, en fait, les études qui ont été faites récemment montrent, que, par exemple, que le poisson, parce qu'il est suffisamment éloigné en tant que genre d'animal dans l'embranchement des espèces, il est suffisamment éloigné de l'homme et des mammifères, le poisson ne serait pas un vecteur de transmission du prion. Donc là-dedans, la position de l'insecte est encore meilleure parce que finalement, il est encore plus éloigné, c'est un invertébré, donc c'est dans les arthropodes, l'embranchement est beaucoup plus haut dans l'arbre des espèces, donc il y a encore beaucoup moins de probabilité que l'insecte lui-même soit un vecteur de prion. Donc on a un filtre qui, à mon avis, serait du même ordre que le filtre qu'on a quand on épand des matières sur de la terre et qu'on fait pousser des plantes avec.
Alors, c'est 2 milliards de personnes, un peu plus de 2 milliards de personnes qui consomment des insectes régulièrement.
Et comment ça se consomme du grillon ? Ça a quel goût ? Ça ressemble à quoi ?
Alors, les insectes en général, et en tout cas ceux qu'on consomme, et le grillon en particulier, ont très très peu de goût. Nature, ça a un goût qui dépend énormément du mode de cuisson. En général, ils sont frits, parce que ça leur donne un goût qui est plus agréable, avec des épices, par exemple de l'ail et des feuilles de citronnier. En tout cas, c'est comme ça qu'au Laos, on les trouve dans les restaurants par exemple. Après, ça prend vraiment le goût de ce qu'on donne, parce que ça a peu d'intérêt gustatif au départ. Par contre, quand on part sur d'autres insectes, par exemple les punaises, on peut arriver sur des goûts qui sont beaucoup plus désagréables, parce que c'est des insectes qui ont des glandes qui sécrètent pas forcément des toxines, mais en tout cas des produits qui ont un très mauvais goût pour se protéger des prédateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà senti, si vous vous rappelez de l'odeur des coccinelles, par exemple. Une coccinelle, c'est pareil, ça crache un truc jaune qui pue. Bah, c'est parce que voilà, c'est un mécanisme de défense. D'ailleurs, ne mangez pas n'importe quel insecte.
Bonjour. À terme, est-ce que vous envisagez comme de l'élevage individuel ou familial ? Vous parlez des petites cages, donc est-ce que... Bien sûr, dans 5 ans ou 10 ans, mais... Si on se projette un petit peu plus loin, est-ce que vous envisagez dans chaque famille, par exemple, un petit élevage individuel qui recyclerait justement les déchets ménagers et permettant une source de protéines pour la famille ?
Mon épouse ne veut pas.
Dans les pays en voie de développement, peut-être, parce qu'en général, l'espace est plus important. En ville, c'est plus compliqué quand même. Hein, les insectes, le grillon, ça chante. Alors certes, j'en ai souvent dans mon salon, parce que j'ai toujours un élevage de démo en France, au cas où, mais bon, il faut être prêt à vivre avec le bruit de la Provence dans son salon, quoi. C'est pas forcément désagréable, hein, mais il faut s'y habituer. Après, il y a d'autres inconvénients. L'odeur, l'insecte, ça sent fort. Même le grillon, qui pourtant mange peu d'aliments humides, va quand même sentir fort parce qu'il va avoir des déjections, etc., qu'il va falloir changer. Son substrat pour que l'odeur soit minimale, c'est pas forcément adapté. Après, dans les jardins, des caves, des garages, oui, pourquoi pas. Voilà, surtout que c'est des insectes qui aiment bien vivre, le grillon ou les cafards d'ailleurs. En ce moment, je sais pas si vous avez vu, le cafard, ça explose, hein, $160 le kilo en Chine. parce que c'est utilisé à fin médicinale là-bas. On a retrouvé quelques millions ou milliards qui se sont échappés d'une ferme parce que quelqu'un était venu essayer d'en voler quelques-uns et les autres se sont enfuis. Voilà, c'est des espèces qui aiment bien vivre donc dans des espaces confinés, humides et sombres. Ça tombe bien, hein, on en a plein des comme ça.
Il y a une designeuse allemande là récemment, si vous trouvez ça sur internet, qui a designé un appareil à élever des Black Soldier Fly. Alors c'est une espèce de machin bleu en plastique. Il y a une bulle dans laquelle ça fait une volière. On met les larves au-dessus. Les larves, quand elles sont mûres, elles descendent, elles commencent à voler. Les mouches sont censées pondre dans cette magnifique volière. Et vous mettez vos déchets de table dans un tiroir. Et elles viennent pondre sur une surface qui est designée pour ça. Et les larves tombent dans cette sur ce truc-là et viennent manger vos déchets pour redonner de nouvelles larves. Et après, il y a un autre tiroir où les larves migrent quand elles ont fini de manger. Vous sortez et vous pouvez l'utiliser directement dans votre salade.
Évidemment, toujours se méfier. Hein, les designers font toujours des très jolis objets qui, en réalité, se montrent toujours moins utiles que ce qu'on aimerait. Mais voilà. Après, on verra si un jour des modèles comme ça atteignent la production, justement, parce que ça prouvera qu'ils ont réussi à passer d'éventuels écueils.
Alors sinon, pour les jardins, il y a sur la partie Black Soldier aussi, vous allez trouver sur les forums sur Internet des tas de gens qui expliquent comment est-ce qu'on construit un composteur domestique pour attirer des Black Soldier, pour avoir un effet compostage par les Black Soldier et avoir des larves qu'on va pouvoir donner à ses poules. Donc ça, on trouve beaucoup. Et il y a des gens qui commencent à vendre même des petits composteurs domestiques spécialement designés pour les Black Soldier. Ça s'appelle les biopodes. Et donc, oui, il y a des gens qui commencent à réfléchir pour avoir une approche locale de ces mouches-là.
Oui, je ne suis pas arrivée au début. J'ai peut-être loupé quelque chose. Mais je n'ai pas compris la formation du prix de ces produits. J'entends qu'on a à la fois un déséquilibre offre-demande qui expliquerait que le prix soit élevé. Alors j'avais plutôt en tête que ce n'était pas un produit très demandé puisqu'on a une sorte d'aversion culturelle pour les insectes. Donc je ne comprends pas bien pourquoi il y aurait un déséquilibre offre-demande. Et ensuite, si c'est le cas, est-ce qu'il y a en plus un problème de coût de production ? Est-ce que le prix est élevé parce que les coûts de production sont élevés ? Et est-ce que dans la perspective d'une production intensive, on peut espérer baisser les coûts de production, satisfaire une demande et avoir des prix du coup qui baissent ?
Alors il faut faire attention parce que le prix varie énormément entre l'Occident et les pays entomophages. En gros. Dans les pays entomophages, il y a beaucoup de demandes. C'est cher, mais cher là-bas, c'est 5-7 euros le kilo. Hein, donc ça serait considéré comme pas grand-chose chez nous. Alors que chez nous, comme c'est un marché de niche où peu d'acteurs essayent de se battre, mais ils arrivent à fixer le prix plutôt haut, justement parce qu'il y a peu d'acteurs, on est sur des prix qui sont voilà, entre minimum 400 euros, maximum 1250 euros le kilo de grillons domestiques. Parce que c'est un marché très faible. Mais c'est un marché qui intéresse en partie des restaurateurs, par exemple dans le sud de la France. On a un restaurateur qui a une étoile et qui met des insectes à son menu, alors que c'est illégal.
Alors en ce qui nous concerne, nous on a cette approche qui consiste à essayer de développer une approche industrielle de l'élevage d'insectes. Et pour faire des protéines, on ne peut pas se situer sur des prix à 400 euros le kilo, mais on est plutôt en train de viser des prix à entre 400 et 1000 euros la tonne. Donc, l'objectif
oui, il y a toute la rationalisation de l'élevage en fait qui reste à faire. Comme c'est un secteur qui reste assez neuf au niveau industriel, c'est-à-dire sorti des élevages dans les jardins en Asie, il y a beaucoup de travail à faire sur l'alimentation, sur la prévention des maladies. Qu'est-ce que les cycles idéaux, les taux d'humidité idéaux, l'espace nécessaire, parce que par exemple un grillon, ça a besoin de 2 cm² pour vivre, mais jusqu'où on peut les empiler quand même, parce qu'on peut les mettre en hauteur, c'est l'avantage. On travaille souvent avec des boîtes à œufs pour les grillons, parce que ça leur donne plein de cachettes, beaucoup de surface, donc ça permet de démultiplier un petit peu l'espace de l'élevage, et donc de passer sur du vertical en plus de l'horizontal, là où avec des poules on se retrouve avec des batteries, mais sur une espèce qui n'est pas vraiment faite pour.
Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un gros enjeu d'arriver à produire industriellement des insectes à des coûts qui soient abordables, dans des volumes qui soient compatibles avec les besoins de l'agroalimentaire européen, notamment, et dans des coûts qui soient comparables, grosso modo, qui se situent entre le prix du soja et le prix du fishmeal, grosso modo, de la farine de poisson, pour arriver, parce que c'est un apport protéine qui est plus proche de celui du fishmeal, on pense, et donc ça pourrait substituer au soja, mais encore faut-il que ce soit un prix qui soit suffisamment raisonnable pour pouvoir être compétitif. Donc beaucoup de travaux pour automatiser, industrialiser et trouver les bonnes métriques de production là-dessus.
Alors, ils sont mal étudiés. La question, c'est les effets sur la santé humaine. Pour l'instant, ils sont mal étudiés parce que, justement, comme c'est une habitude alimentaire qui n'est pas très présente en Europe ou aux États-Unis, on ne s'y est pas beaucoup intéressé parce que, justement, bah, ça ne nous touche pas, en fait. Et quand ça ne touche pas les pays les plus riches, en général, on ne l'étudie pas trop. On a commencé à s'y intéresser. Pour l'instant, ils sont plutôt positifs.
Voilà. Je crois aussi qu'il faut quand même... on ne peut pas dire l'insecte, en général. Il y a 1 million de races. Un million d'espèces.
1400 comestibles d'après le listing de la FAO.
On est loin d'avoir trouvé probablement tous les insectes qui seront utiles à l'homme demain. On a trouvé quelques-uns depuis des milliers d'années avec les vers à soie et avec les abeilles. Mais il y a certainement dans la nature des insectes qui occupent des niches écologiques qui vont apporter des bienfaits donc, qu'on pourra utiliser demain et qu'on ne connaît pas encore. Quand ils ont parti faire des relevés en Amazonie, ils ont relevé un certain nombre d'espèces de mammifères ou d'oiseaux nouvelles. Donc je crois qu'il y en avait plus de quelques centaines. Ils n'ont pas pu relever tous les insectes nouveaux qu'ils ont trouvés, tellement il y en avait.
Voilà. Bon, la petite musique de fin est en train de sonner. Juste pour vous dire, donc n'hésitez pas à venir nous voir après s'il reste des questions. On a des sites... Képri a un site internet, toi pas encore, c'est ça ?
Il y a une petite page.
Ouais, voilà, une page aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, même si on ne tweet pas beaucoup. Et d'ici une dizaine de jours, on va faire une campagne de crowdfunding donc sur le projet en partenariat avec Handicap International, qui va probablement avoir lieu sur le site Indiegogo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer voir la campagne. Il y aura une petite vidéo qui expliquera ce qu'on veut faire, même si vous avez eu plus qu'un aperçu ici. Voilà.
Merci.